Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Il est 11h, vous comprenez sans doute que nous sommes à l'heure de l'émission Club de la Presse et je suis très ravi de vous retrouver dans ce cinquième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Et la mise en onde est assurée par Thomas Dattevi grâce à Jérôme Akucha. Vous pouvez alors nous suivre en direct sur nos différentes plateformes numériques. Je suis Pascal Lossou au micro. Club de la Presse, c'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Nous aurons également, ou nous sommes également en contact avec des radios en ligne, radio en ligne partenaires bien évidemment. Il s'agit de Ibn Radio et Radio Les Bénins. Vous le savez très bien, Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse et les commentaires d'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est bien sûr, alors avec des confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités. Alors, confrères journalistes, il y a déjà Germain Poli. Germain, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien et que le Togo s'est bien réveillé ce matin.
Merci Dieu.
Alors, Firmé Teko Agbo, chroniqueur de Son État, comment vous allez?
Je vais bien. Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
Merci à toi aussi d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, nous aurons maintenant mené le débat ensemble tout de suite sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Mais bien avant, nous avons un invité, c'est Monsieur Tondo Edo. Il est porte-parole alors du collectif de lutte contre l'érosion côtière. Bonjour Monsieur Tondo.
Bonjour Pascal, bonjour tous les riverains, bonjour tous les journalistes aussi.
Voilà, j'espère que vous allez bien.
Très bien.
Et que le collectif aussi se porte bien.
Oh, à la Togolaise.
À la Togolaise, bien évidemment. Alors, nous voulons parler alors de l'érosion côtière et la troisième alors plainte de 6 communautés contre la LCT Lomé Container Terminal. Et le rapport d'enquête du CAO, Compliance Advisor, Ombudsman. Et sincèrement, d'abord, pour parler alors de cette histoire, de cette affaire d'érosion côtière, d'abord, on parlait entre-temps, ou du moins, je parlais tout de suite alors de cette plainte que vous avez adressée à LCT. Dites-nous, c'est quoi concrètement l'affaire?
Bon, merci. Juste pour dire un petit coucou à tous les chefs du village qui nous ont soutenus, à tous les chefs du village qui ont perdu leur palais royal et les cimetières. Donc, le problème de l'érosion côtière, et c'est depuis la construction du premier port de Lomé dans les années 60. Donc, à ce moment, nous avons appris que la mer avance un peu. Donc, bon, moi, j'ai investi à la plage de Guadjomé en 2007. Et en 2010-12, on a vu que le pas de la mer n'était pas du tout comme ça auparavant. Donc, on a vu que la mer avance de grands pas. Donc, bon, moi, je croyais que c'est au niveau de Guadjomé seulement, mais au niveau d'Agbavi, c'était le Kata aussi. Au niveau de Bagida, c'est plus pire. Donc, on s'est réunis pour former un collectif des personnes victimes d'érosion côtière. Et on a cherché les voies et moyens pour voir quelles sont les causes de l'amplification de l'érosion côtière. Et on a vu qu'il y a deux ports, il y a deux grands ports qui se construisent. Et la grande port, c'est le grand port le plus grand, le plus l'eau profond, c'est pour LCT. Et nous avons appris aussi qu'il a prolongé le digue d'arrêt de sable qui a créé l'érosion côtière dans les années 60. Donc ce digue d'arrêt a été prolongé beaucoup. Donc on a essayé de discuter avec les responsables portuaires, mais ça n'a pas été. On a essayé de chercher les partenaires financiers de ce port, qui est la Banque mondiale. On a fait plusieurs réunions en 2014 avec la Banque mondiale à Lomé ici, qui n'a pas beaucoup donné. On a essayé de prendre contact avec leur représentant régional à Accra. Ça n'a pas grand donné. Et puis on a saisi leur mécanisme de plainte qui s'appelle CAO. Et 13 communautés ont porté plainte contre CAO, contre la SCT, parce qu'ils ont amplifié la pauvreté des gens et puis ils ont amplifié l'érosion côtière.
Est-ce qu'on peut avoir une notion de ces communautés qui ont porté plainte?
Bon, à ce moment, c'est de Katanga jusqu'à Edokondi. Il y a Guadjomé, il y a Gbavi, il y a Bagida, il y a Vepozo, il y a Firinigma, donc il y a Gbotranfo aussi. Donc, Ce sont les 13 communautés qui ont porté cette plainte en 2014.
Et ces communautés sont touchées par l'érosion côtière.
Sont envahies, sont gravement touchées par l'érosion côtière. Mmh. Vous avez constaté qu'en 2012-2013, on a vu que les gens de Baguida, la mer les a délogés, mmh, et le ministre est venu, on les a relogés au niveau de lycée de Baguida.
Après, et il y a certains villages même d'ailleurs qui n'existent pratiquement plus. Oui, quand oui, on oui, prend Douévi, Kopé, bah, à Baguida, et c'est des villages plutôt qui n'existent pratiquement plus.
C'est les villages qui les gens ont tout perdu. À Baguida, on a vu les gens, ils ont exposé leur matériel, les télévisions, les matériels de ce qu'ils utilisent dans la maison, mm, sur la route pendant 3 ou 4 mois comme ça avant de trouver là où ils vont dormir, vous voyez. Donc à Gbojome et puis à Gbavi, c'est le palais royal de Kossi Gbavi qui est rentré dans la mer. Tout le monde est au courant. Donc
le palais royal est englouti par la mer.
Les cimetières, tout sont rentrés dans la mer. Donc on ne peut pas voir tout ça là et ne pas dire quelque chose. Mm. Donc notre effort, nous ne sommes pas un collectif qui fait politique, donc nous sommes un collectif qui défend nos droits. Mm. Défend nos droits avec beaucoup de voies et moyens. Et on a saisi le mécanisme de qui s'occupe de l'environnement de la Banque mondiale. C'est eux qui sont venus. En 2016, ils ont fait une enquête et puis ils ont publié leur rapport qui démontre que le port de LCT a été classé catégorie A. Si on dit un projet classé catégorie A, donc c'est un projet qui comporte beaucoup de risques. C'est un projet qui est classé comme barrage. Vous voyez, si on fait le barrage au niveau d'Assigan maintenant, peut-être au niveau de Rond-Point jusqu'à Baguida, bon, des fois il y a les impacts sur ce. Donc le projet a été classé catégorie A, ce qui dit que ça comporte beaucoup de risques pour les riverains. Donc ils n'ont même pas associé les riverains pour la consultation communautaire. S'ils ont associé les riverains, donc les riverains vont dire que ils ont fait un pont dans les années 60, ça a fait l'érosion côtière. Avant de faire ça, il faut que vous protégez au moins la côte ou bien faire une prévision sur nous qui sommes ici. Ça a arrêté tous les travaux des pêcheurs. Hein. À Baguida maintenant, c'est une ville morte. Hein. À Gbavi maintenant, les autochtones sont devenus les locataires de leur propre maison. Les autochtones qui ont les terrains, ils sont devenus les locataires dans ce village-là. Comment on peut vivre dans un pays et de l'autre côté, ils ramassent des sous et ils répartissent. Mmh. C'est pas du tout bien.
Voilà, M. Tondo, et finalement, quelle est l'évolution alors de cette plainte aujourd'hui? Est-ce que ça évolue? Oui. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous avez gain de cause? Je veux bien parler de ce collectif.
Oui, gain de cause, c'est que la CAO a fait une enquête et en 2016, ils ont publié le rapport d'enquête qui épingle LCT, qui dit que le LCT n'a pas respecté les tests. Mmh. Vous voyez, ça, il dit que ce projet est classé catégorique. Donc, c'est LCT qui devait rencontrer les populations pour qu'on trouve une solution. Il ne veut pas qu'on trouve une solution. Donc, il dit que, comme le rapport n'a pas précisé que c'est son digue d'arrêt de sable qui a fait. Donc, le rapport a ordonné aussi de faire une enquête et le degré d'impact de LCT. LCT reconnaît maintenant qu'il a contribué à l'érosion côtière, mais que le degré d'impact, c'est minime. Maintenant, les gens de CAO les disent de faire une enquête, de faire le degré d'impact. Maintenant, ils ont fait ça, il y a certains professeurs qui ont fait ça, il y a professeur Adjaho, mais le rapport a été sorti depuis 2020. Maintenant, le rapport est sur le tiroir. Ils n'ont pas publié ce rapport. Maintenant, ils nous disent que c'est le gouvernement qui va donner OK d'abord avant qu'on publie ce rapport. Mais la population, il y a toujours la souffrance, il y a toujours, la mer avance toujours. Donc, raison pour laquelle il y a aussi 6 communautés qui ont porté en 2012, en 2022, une autre plainte pour démontrer, pour que la RCT amène les experts pour qu'on vérifie les impacts de digues d'arrêt de sable.
Oui, voilà donc ce qui veut dire que pas à pas ça évolue, et qu'on attend maintenant le gouvernement, puisque c'est ce que vous venez alors de dire, le gouvernement, pour que du moins on arrive à situer les faits, c'est ça?
Oui, non, c'est pas le gouvernement, c'est la RCT qui a choisi les experts qu'on fasse le degré d'impact. Pour voir le degré d'impact, si c'est 30% ou bien c'est 20% ou bien
justement,
c'est 40%.
L'impact environnemental
sur l'érosion côtière. Maintenant, ils ont fait ça. Ils ont fait ça en 2020. Et puis, ACT a réussi ça. Maintenant, il dit qu'il ne peut pas plier tant que le gouvernement n'est pas donné. OK. Mais l'ACT doit suivre les règles de l'État. Mais quand même, il doit suivre les règles aussi de ses partenaires qui ont financé le projet, qui est la Banque mondiale. Vous voyez, il doit publier. Donc, la Banque mondiale, si tu finances quelque chose, donc il faut veiller que tous les documents soient au public. Que les gens
aient ce document-là. Public, alors
ce document-là. Je ne sais pas ce qui les bloque. Il dit que c'est le gouvernement qui va... Le premier étude de pape environnemental qui a été fait en 2010, ce n'est pas le gouvernement qui les a donné OK d'abord avant qu'il publie ça.
Et pourquoi on attend cette fois-ci que le gouvernement donne son OK d'abord?
Moi, à mon avis, c'est l'intimidation, c'est l'influence. Donc, il dit que c'est le gouvernement qui va donner OK, mais c'est ce qu'on sait pour nous influencer. Donc... Et puis, il fait ça depuis. L'influence, les représailles, tu peux quitter la radio Canal FM maintenant, tu vois une voiture ici, arriver à ta voiture, tu peux regarder cette même voiture-là. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, on nous suit et puis on menace nos membres que vraiment que l'affaire d'érosion côtière doit régler par l'État et non pas la Banque mondiale. Mais nous, on a choisi la Banque mondiale parce que c'est eux qui ont investi. Leur mandat social, c'est de financer des projets qui vont diminuer la pauvreté et non pour aggraver la pauvreté. Donc, raison pour laquelle on a choisi la voie de la Banque mondiale pour résoudre ce problème-là.
Et donc, vous estimez qu'il y a des intimidations et des représailles alors dans cette histoire, dans cette affaire. Et, finalement, oui, vous avez fait quand même d'ailleurs de ces intimidations tout de suite. Ces intimidations viennent de qui?
Bon, plusieurs personnes, à mon avis, plusieurs personnes, parce que les gens, il y a certains gens qui ont leur responsabilité personnelle dans ce projet. Hein, vous voyez, il y a les gens qui voient que, ah, vraiment, si tout est publié, donc notre. Ce qu'on mange, ça va. C'est la raison pour laquelle les gens passent par beaucoup de moyens pour nous intimider. Donc, bon, par exemple, la fois dernière, c'était notre maman et Ninivette Amourin qui a été menacée plusieurs fois même par un voisin. Dit qu'il y a un voisin, mais on sait que dans tout ça là, il y a quelque chose qui cloche derrière. Sans mandat d'arrêt, sans convocation, la dame de 66 ans a été prise par les forces de l'ordre et ramenée à la police ou bien à la gendarmerie, on ne sait pas. Et bon, personne ne dit pas beaucoup de choses. On dit que c'est on ne peut pas rester dans ce pays comme ça. Hein? Si ça touche notre voisin aujourd'hui, si on le dit quelque chose, demain, c'est Canal FM qui va rentrer dans la mer. Vous voyez, raison pour laquelle moi, j'aimerais que tous les ONG, tous les défenseurs des droits de l'homme voient que il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tout le monde tape sur la table pour qu'on arrête toutes ces choses-là. Donc, nous remercions aussi les ONG comme et Nadaf, et c'est Cassite, et c'est conscient, Pasteur Martin Luther King, hein, Pasteur Dokwami.
Donc, mouvement Martin Luther King.
Oui, tous ces gens-là nous soutenaient. On les remercie. C'est le moment de les remercier un peu. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Firmin, je ne sais pas si vous avez une question pour Monsieur Tondo.
Non, moi, je n'ai aucune question. Mais je voudrais juste demander à l'État d'intervenir pour que tout le monde puisse avoir satisfaction, ou ceux qui revendiquent un certain nombre de choses puissent avoir leur doléance satisfaite. Et puis, on va passer à autre chose. Voilà.
J'aimerais.
Que pour moi, la question, c'est, on a entendu parler de lancement d'un projet en erreur il y a quelque temps.
Et je pense qu'il y a même le projet Waka qui
pour ambition de protéger la côte togolaise.
Tout à fait.
Pas seulement Anéro, mais toute la côte togolaise qui est longue d'une cinquantaine de kilomètres. Est-ce que ce projet-là est arrivé déjà à votre niveau? Est-ce qu'on vous annonce que quelque chose sera fait pour protéger les côtes où vous habitez, où vous travaillez?
Ok. Merci. Donc, le projet Waka, on a eu connaissance de ce projet depuis à Baudrafort, depuis à Nero, mais notre collectif n'étend pas jusqu'à Nero quand même. Ça s'arrête au niveau des deux conduits, d'une copée. Donc, on a les échos de ce projet. Et moi qui vous parle ici, et j'ai rencontré lors de notre mission à Washington la fois dernière, on a rencontré les autres responsables de projet Waka et on a de la Banque mondiale, et puis on a beaucoup discuté sur ce projet. Donc, on a eu connaissance de ce dossier quand même. de ce projet. Mais on ne peut pas beaucoup dire sur ce dossier parce qu'on a signé avec eux un accord de non-divulgation des messages. Donc et je ne pense pas que je peux dire quelque chose sur le projet Waka là où nous sommes.
Vous parlez d'une mission aux États-Unis. Qu'est-ce que vous étiez parti faire?
Bon, c'est une ONG américaine, on s'appelle BIC, qui nous a formés ici à Grand Popo et puis nous a invités de venir rencontrer les exécutifs de la Banque mondiale sur ce projet de LCT qui dure de beaucoup, qui dure beaucoup et on n'a pas le remède, pour le moment on n'a pas un remède pour ça. Raison pour laquelle on est parti là-bas, on a discuté avec les autres responsables de la Banque mondiale.
Des discussions, qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que c'est juste alors des discussions et c'est fini?
Ouais, vous savez que la Banque mondiale est gérée par 25 exécutifs. Il y a les Allemands, il y a les Amériques. Il y a aussi pour le Togo, M. Bello, qu'on le salue très bien. Et il nous a bien reçus lors de notre visite à Washington. C'est lui qui représente le Togo quand même. Donc on a beaucoup discuté et on attend ses fruits. On attend ses fruits, mais c'est à propos de... Bon, eux aussi, ils vont faire leur pression quand même pour que tous les documents qui sont dans les tiroirs seront publiés. Donc, je pense qu'actuellement, ils sont en congé. Ils vont reprendre en septembre.
J'aimerais une autre question, ou bien vous êtes satisfait?
Non, c'est bon, c'est bon.
C'est bon.
On leur souhaite du courage et bonne chance.
Alors, Monsieur Tondo, rappelez-nous juste ce que vous attendez concrètement lors de cette plainte, ce que vous voulez.
Oui, notre désir, c'est que pour l'IRPE, donc si ils ont publié le rapport, le degré d'impact de LCT, il doit prendre ses dispositions pour corriger ça. On n'attend pas grand chose de LCT. Si c'est 3%, 10%, les maisons qui sont rentrées dans la mer à partir de 2012, bon, prenez ça en compte. S'il y a quelque chose, on va essayer de voir aussi le port de Lomé. Lui aussi l'a contribué. Donc, comment il va faire ça? Ça, c'est entre papa et son fils. Donc, la SCT qui a un privé qui vient ramasser ramasser les choses chez nous. Au port maintenant, qui est le plus grand port de Lomé maintenant, c'est LCT. Là où même LCT a conçu son port, c'est grâce au digue d'arrêt de sable que le port de 1960 a fait que ce terrain est devenu maintenant un terrain dont la SCTA a construit son port et ses packs de conteneurs.
Mais concrètement, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous voulez des dédommagements?
Dédommagements, pur et simple. On a dédommagements. Il n'a qu'à nous dédommager. Et puis, le reste, s'ils ont des choses sociales à faire dans le village, c'est leur problème. On ne peut pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre quelque chose maintenant. Et puis, on va dire que vraiment, vous avez perdu. On reconnaît que vous avez perdu quelque chose, mais on va faire un travail social pour vous, la communauté. Est-ce que vous serez satisfait? c'est pas du tout bien. Donc, il faut qu'on dédommage individuellement. Après, s'ils ont les sociaux à faire
des actions sociales.
Sociales à faire dans la communauté, il peut faire ça. Sinon, nous sommes prêts de lutter jusqu'au bout, et même si nous ne sommes pas là, les enfants vont le faire aussi.
Assez de courage à vous. Vous restez avec nous. Peut-être que des auditeurs vous poseront des questions au temps convenu. Et donc, vous restez avec nous, Monsieur Tondo Edo. Je rappelle tout simplement que vous êtes le porte-parole du collectif des victimes
des personnes victimes de l'érosion côtière.
Justement, c'est bien dit. Alors, merci beaucoup. Vous restez toujours avec nous dans ce débat. Alors, je reviens alors à mes confrères journalistes, Germain Pouli et Firmin Teko Agbo. Nous allons maintenant fouiller un tout petit peu la presse d'aujourd'hui pour savoir exactement ce que la presse dit, des sujets discutés alors dans la presse. Et donc, nous prenons le journal Le Télégramme du Togo qui nous dit « Élections régionales et législatives, affichage des listes électorales provisoires, la CENI attend vos recours pour une liste définitive, nickel ». Alors, Germain, C'est vrai que le code alors de enfin électoral a donné 48 heures pour ce travail alors de ratification, ou du moins vous irez consulter d'abord la liste électorale. Depuis hier, cette liste a été affichée et aujourd'hui les 48 heures s'épuisent. Finalement, je ne sais pas si vous, en tant que citoyen, vous étiez déjà parti pour vérifier si tout est correct alors sur votre carte.
Bon, généralement, je pense que quand on imprime la carte, qu'on vous remet directement le jour où vous vous faites enrôler, on vous vérifie avant de partir. Hein, si les informations ne sont pas bonnes, vous pouvez les faire corriger, ce qui a été fait quand je me suis fait recenser la dernière fois. Mais maintenant, on peut toujours aller s'assurer qu'on a toujours inscrit dans ce bureau de vote. On peut aller aussi, si on a un intérêt particulier pour cette élection, peut-être en tant qu'indépendant ou en tant que militant ou responsable d'un parti politique, aller s'occuper aussi des autres inscriptions. Vous avez vu que plusieurs partis politiques disent qu'on a inscrit des mineurs, d'autres disent qu'on aurait inscrit des étrangers aussi. Donc c'est l'occasion d'aller, lors de l'affichage là, pour déceler ces inscriptions indues, si elles existent vraiment. Donc, si vous êtes militant, responsable d'un parti politique, vous avez un intérêt supplémentaire à aller consulter ces listes-là, avec l'espoir de pouvoir dénoncer quelques irrégularités, s'il y en a. Mais d'habitude, je crois que c'est un exercice que bon nombre de Togolais ne font pas, cet exercice, parce que quand on prend sa carte, on est sûr que le jour du vote, quand on arrive, le nom existe et on peut voter. C'est très rare d'aller avec sa carte et que son nom n'est pas sur la liste électorale. Mmh. Hein, ça ne se passe presque pas. Et donc, ce qui fait que plusieurs Togolais ne se fatiguent pas après pour aller lors de l'affichage, pour constater effectivement si ils sont inscrits et peut-être vérifier les autres inscriptions. C'est tout à fait normal, hein, quand on prenait déjà le fait d'aller s'inscrire déjà lors des révisions. Certains ont déjà la paresse d'y aller. Ils le font. Et maintenant, retourner juste pour vérifier, c'est un peu difficile pour le Togolais lambda, mais pour ceux qui ont un intérêt particulier, lors de cette élection, surtout les partis politiques et les candidats indépendants, je pense que c'est une nécessité d'aller et s'assurer que il n'y a pas d'erreur. Donc la CENI, d'habitude, ce qu'elle fait à son niveau, c'est de supprimer les doublons et faire certaines corrections. Maintenant, ceux qui prétendent qu'il y aurait des personnes qui ne méritent pas d'être sur telle liste qui y sont, doit profiter de ce moment-là pour aller dénoncer, faire rectifier cette liste électorale.
Et Firmin, une chose est d'avoir sa carte électorale, mais l'autre, c'est de savoir que toutes les informations sur la carte correspondent à ce qui est sur le fichier.
Bien évidemment. Je pense que ce point, Germain Pouli l'a souligné, lorsque vous faites établir la carte directement, on vous permet de vérifier en même temps. Et je pense que la plupart de tous ceux-là qui ont eu la carte ont eu à vérifier cela. Mais n'empêche, il y a toujours quelquefois de petites coquilles, de petites négligences. Donc, qui peuvent faire que vous ne trouviez pas vos noms soient inscrits ou mal écrits après. Donc, c'est l'occasion pour tous les Togolais d'aller dans ces centres de vote pour voir si les données sont exactes ou si les noms sont affichés ou non. Hier, c'était le premier jour.
Justement.
C'est le deuxième et dernier jour.
Tout à fait.
Je ne sais pas si je vais aller, mais peut-être j'irai le soir. Je considère que c'est bien fait. Puisque du moment où nous avons la carte.
Mais l'essentiel, c'est de vérifier. L'essentiel, c'est de vérifier. Et je pense tout simplement que, en tant que citoyen, nous avons cette obligation d'aller vérifier, puisque ça pourrait être aussi préjudiciable lors du vote.
Oui, bien évidemment. Le jour vous du avez vote. La carte, mais vous ne retrouvez pas votre
nom. Tout à fait, vous ne retrouvez pas votre nom. Voilà. Ou le nom qui est écrit sur la carte n'est pas, ne correspond pas à ce qui est sur le fichier. Donc, il est très important que nous, en tant que citoyens, nous allions pour vérifier cela. Alors, mais maintenant, cette étape même d'ailleurs de la CENI, où on vérifie tout de suite déjà le nom et tout, et ça veut dire tout simplement que j'aimerais, ça veut dire que, alors, le processus électoral suit son cours et ça continue.
Oui, je crois que c'est dans le chronogramme donc de la CENI qui est en charge l'organisation et la supervision donc du processus électoral, et le timing est bien respecté à mon avis, et il appartient donc à chaque acteur de jouer son rôle. Donc la CENI essaie de communiquer aussi au maximum sur les opérations qui sont faites et les moments, et donc après cette étape là c'est fini, on suppose que le fichier électoral est consolidé, il est effectif et il pourra donc servir à aller donc à l'élection, et on s'achemine véritablement donc vers la toute première élection, parce qu'on en aura plusieurs cette année d'ici décembre donc, et la CENI est bien donc dans le chronogramme, et s'il n'y a pas de cas de force majeure, c'est sûr qu'on s'achemine directement vers le premier scrutin avant la fin de cette année.
Firmin, c'est vrai que Germain le disait tout de suite, que la CENI s'est bien communiquée autour alors de ce processus. Est-ce que vous avez vraiment cette impression que la CENI, depuis même d'ailleurs qu'on a commencé ce processus, que des informations nécessaires sont données pour que du moins les populations, ou du moins le corps électoral même tout entier, ait une notion sur ce processus?
Non, moi, je ne dirais pas, je ne répondais pas à l'affirmative, parce que le début a été un peu compliqué. Et surtout quand on fait toujours allusion à l'opération zone numéro 1, où on n'a pas directement senti la CENI ou la communication de la CENI. Donc c'était les journalistes, les partis politiques ou les responsables de partis politiques qui montaient au créneau pour appeler et les gens allaient se faire recenser.
Alors, il y a une cellule de communication au sein de la CENI.
Oui, mais on l'a pas trop senti. On l'a pas trop senti lorsque les opérations ont commencé. On n'a pas trop senti cette communication-là. C'est après que peut-être après un peu l'échec de Lomé, entre guillemets, hein, où il n'y a pas eu bon nombre qui se sont fait recenser, où il y a eu assez de plaintes, que on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait redoubler d'efforts au niveau des zones 2 et zones 3. Mais aujourd'hui, je pense que la CENI est revenue sur le champ communicatif, et il y a toutes les communications et tout ce que la CENI est en train de prendre comme décision affiche simplement que tout est en marche et que nous allons progressivement vers les élections. Aujourd'hui, il y a assez de doutes. Parce que quand les gens disent que les temps sont chers, la vie chère, le pays manque d'argent, tout ça, moi je me dis, la manière dont la CENI est en train de procéder prouve à suffisance que on va vers les élections. Les gens se rappellent, les gens disent que bon, au Togo, de par le passé, on a eu de petites difficultés. Quand vous rappelez un peu les élections législatives de 2013, cela devrait être organisé en 2012, mais il y avait eu le CST à l'époque de Décon 1 juin, Décon 2, et qui avait crispé un peu l'atmosphère. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu organiser les élections législatives en 2012, parce que celle-là qui venait avant, c'était les élections de 2007, et 5 ans après, les élections législatives devaient être organisées en 2012. Maintenant, avec ce climat politique un peu tendu qu'il y avait, donc on a dû reporter, on les a organisées en juillet 2013. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans ce schéma-là. Je pense que les choses comme cela se doit, au niveau de la CENI, bien sûr. La CENI suit un chronogramme bien défini, et je pense que ça continue comme ça, d'ici des décembre, on aura les deux élections.
D'ici décembre, c'est une supputation que nous faisons tous ensemble, puisque pour le moment, aucun calendrier n'est défini par rapport, on ne sait même pas pour le moment, le jour de l'élection, c'est-à-dire quand est-ce que nous irons même d'ailleurs à ces deux élections.
Bon, on a quand même une idée de la période pour certains. Et vous avez vu ce qui se passe au Gabon, s'il y a des élections, c'est à peine en moins de 2 mois qu'on vous annonce la date de l'élection. la date du dépôt des candidatures, la date du démarrage, de la campagne électorale. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une élection, et il y a un référendum, par exemple, que le Tchad propose. Là, c'est depuis cette semaine que tout est en train de se faire et pour pouvoir se tenir probablement dans le mois de novembre. Donc après, je crois que nous avons un cadre de concertation où les politiques discutent de ces choses-là. Et le moment opportun, donc la CENI qui s'occupe de ce processus va pouvoir communiquer. Mais vous savez, depuis le début de l'année déjà, le président de la République avait annoncé les couleurs en disant assez clairement dans son discours qu'il y a des rendez-vous avec les électeurs cette année. Mmh. Donc toutes les formations politiques le savent. Et la preuve, c'est tous les appels lancés par les partis politiques à leurs membres pour aller se faire recenser. Donc c'est dire que on sait déjà ce qui va se passer. L'autre preuve aussi, c'est la pré-campagne qui est faite par la plupart des partis politiques. Vous allez voir des leaders investir tout le pays, aller à la rencontre des populations. Donc c'est déjà une pré-campagne électorale qui s'organise. Donc après, c'est juste une question de date et ça va aller très vite. Mais je ne pense pas que ça va surprendre les acteurs politiques parce que ils savent déjà, ils s'organisent déjà pour aller à ces rendez-vous-là.
Si vous permettez, moi je pense que le jeu est simple aujourd'hui parce que le président de la République, c'est lui qui a annoncé ça en premier. Ça veut dire que c'est lui le patron de la République. Donc s'il annonce, c'est qu'il a les moyens. Ça veut dire que l'État a les moyens pour pouvoir organiser les élections. Donc moi je ne pense pas qu'il y aura problème de moyens. Et donc comme il a dit, maintenant tout le gouvernement est suspendu aux décisions, je dis aux décisions, pas la décision, aux décisions AUX, aux décisions de la CENI. C'est la CENI qui va dire, oui, j'ai déjà fait ci, ça, j'ai tout corrigé. Moi, je suis prêt et le gouvernement, au Conseil des ministres, va décider de cette date-là. C'est fini.
Bon, alors, mais ce que je voulais dire, quand on parle de la CENI, on a comme l'impression que c'est un groupe à part qui organise les élections. Mais ce sont les mêmes acteurs qui ont leurs représentants à la CENI, c'est-à-dire que et l'opposition et le pouvoir et la société civile, en plus de l'administration, préparent ces élections. Donc ils savent, ils ont l'information, puisqu'ils ont les représentants à la CENI, ils sont encore dans le cadre de discussion. Donc je pense que...
Donc, à te suivre, c'est-à-dire les acteurs politiques sont mieux informés que nous.
Oui, ils savent à peu près les dates, mais ils attendent que ce soit
officiel. Mais là aussi, est-ce que la population le corps électoral qui va se rendre à ces élections n'a pas besoin de savoir aussi cette date et d'avoir l'information comme les acteurs politiques tels que vous venez alors de le dire, jamais?
Non, pour leur aller voter, il n'y en a pas besoin de trop de préparation. Mais pour les compétiteurs, ils en ont besoin et ils doivent savoir et ils savent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils sont en pré-campagne. Mais pour les électeurs, c'est vrai que on a vu des pays comme le Nigeria où vous allez à l'élection, vous dites non, on vous dit pas avant que c'est reporté. Le jour J, on vous annonce que c'est reporté, on vous dit c'est dans 2 jours. Et là, ça déboussole totalement l'électeur. Mais je pense dans des pays comme le nôtre, déjà 2 mois avant, les gens savent. Un mois et demi avant, les gens savent. Et donc, parfois 3 mois avant, les gens savent. Donc, ça va se faire. Et après, le reste du boulot revient aux partis politiques et aux indépendants donc qui sont engagés dans cette course parce qu'ils doivent aller vers les populations. C'est là où ils vont marteler aussi la date de l'élection parce qu'ils donnent rendez-vous aux électeurs tel jour. Vous venez, vous plongez nos bulletins dans les urnes, donc ils vont contribuer aussi à en faire la promotion autour de cette date-là.
J'aimerais vous parler entre-temps alors du Gabon, et au Gabon, nous allons nous y rendre, bien évidemment. On sait que Ali Bongo a été investi pour son 3e mandat, et l'éveil de la nation nous dit ce matin à la une, unir à l'investiture du candidat Bongo les raisons d'une présence. C'est vrai que ça a fait tellement de polémiques quand on a vu Madame Tchégan, alors militante alors de l'UNIR, et aussi le secrétaire général alors de l'UNIR, sur les photos et pour apporter en quelque sorte le soutien au président Bongo à son investiture. Et là, est-ce que pour vous, en tant qu'analyste alors de ces événements, est-ce qu'il y a vraiment raison quand même que le parti soit représenté là?
Mais vous savez, il y a une collaboration entre les partis politiques. Hein. Vous allez voir que un parti comme UNIR collabore assez souvent avec le Parti communiste chinois, participe à ses travaux, que ce soit ici au Togo ou en Chine parfois. Et au moment des investitures, les présidents ont pris l'habitude, je parle d'investiture en tant que candidat, hein, pas en tant qu'élu, d'inviter d'autres partis, d'autres présidents. Je me rappelle la dernière élection à laquelle Macky Sall avait participé, lors de son investiture comme candidat de son parti politique, il y avait au moins 5 chefs d'État. On aurait cru qu'il avait déjà gagné l'élection et qu'il venait à la prestation de serment. Tout ça a été fait. Organisé au stade à Dakar et il y avait au moins 5 présidents étrangers. Bon, le Togo n'y était pas à l'époque. Et moi, j'étais un peu surpris, voire choqué. Mais si un parti investit son candidat, des présidents même viennent à l'investiture de la candidature. Donc, vous voyez, donc ça dépend. C'est aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour séduire les électeurs. Si on peut exploiter ces relations à l'étranger pour vous faire croire aux électeurs que ben, c'est comme ça. Mais on a vu ici, hein, même en 2020, on a vu un candidat à Guillaume qui brandissait partout ses photos avec Macron sur les réseaux sociaux, comme si, voilà, donc, vous voyez, et on a même investi à Guillaume à l'église, à Saint-Quisito, on se rappelle. Un évêque, ça c'était même plus catastrophique encore. Mais je crois que tous les moyens sont bons, tous les politiques, s'ils se disent cette formule-là, peut me rendre plus populaire, peut convaincre beaucoup plus. Après, donc, ça reste des relations entre partis politiques. UNIR et le PDG et le Parti démocratique gabonais entretiennent de très bonnes relations. Et donc, c'est pas surprenant que donc UNIR soit invité. Donc, moi, je pense même qu'Ali Bongo a fait moins que Macky Sall, qui a invité il y a 5 ans, et disons 4 ans, plus de 5 chefs d'État donc de la région à son investiture comme candidat.
Pierre, est-ce que vous êtes aussi surpris de voir le parti uni à l'investiture alors de Bongo?
Non, il ne devrait pas y avoir de surprise, parce que ce sont les partis qui s'invitent, au fait. Les partis qui s'invitent, ça montre, ça témoigne de la bonne collaboration entre ces deux partis politiques, le PDG et UNIR. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais au-delà, c'est de la com politique au fait. Ça influence. C'est en quelque sorte, je ne dirais pas un travail psychologique, mais c'est de la manipulation politique aussi. Au-delà, on montre, les gens voient que le Togo soutient Ali Bongo. Et ça a un impact sur l'électorat, indubitablement. Quand Macky Sall, lui, l'invite, ses 5 chefs d'État, ça veut dire que c'est 5 pays qui vous soutiennent. Et donc, ça fait un travail psychologique, c'est de la com. Et aussi, n'oubliez pas, il y a cette histoire de troisième mandat. Il y a cette histoire de troisième mandat. Donc, Ali Bongo qui est dans sa possibilité de faire un autre mandat de plus. Or, ici, on vient de modifier la constitution. Le président de la République, il est là. Depuis, ben, il peut encore briguer un autre mandat. Donc, c'est une manière de clore un peu les débats. C'est pour dire qu'en Afrique, il y a des pays qui gardent cette possibilité de faire un autre mandat de plus après les deux. Donc, pour clore un certain nombre de débats, même si cela reste un débat ailleurs. Mais vous voyez, c'est toujours, il y a toujours un petit clivage au niveau de ces deux débats. Les positions sont toujours antagonistes. Mais toujours est-il qu'il faut arriver à trouver un mécanisme où ces histoires de mandat ne puissent plus faire ou engendrer des crises, des conflits inutiles, jusqu'à avoir des morts, avoir des blessés. Et à ce niveau, pour conclure, moi je voudrais demander aux acteurs politiques, aux sociologues, aux anthropologues, de ne pas négliger cela. de ne pas négliger cela, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Macky Sall et Sonko. Oui. Vous avez vu aujourd'hui au Gabon, on dira que c'est l'antipode en quelque sorte. Mais il ne faut pas négliger. Il faut que les acteurs, les acteurs universitaires, anthropologues, sociologues se réunissent pour pouvoir réfléchir à la formule qui est adaptée à l'Afrique. Parce que ce que nous avons ici en Afrique, c'est du copier-coller. Et par exemple, si les Occidentaux ont pu adopter leur constitution, c'est parce qu'ils ont eu un amour à travailler au niveau de la base. Ils ont travaillé sur le plan sociologique, ils ont travaillé sur le plan anthropologique, ils ont travaillé sur le plan psychologique. Et ils sont arrivés à connaître ou à identifier ce qu'est leur peuple. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont pu obtenir, entre guillemets, une constitution. Moi, je me rappelle que quand Sarkozy était arrivé, il a fait, avant de modifier la constitution en 2008, il a fait asseoir toute une équipe d'universités, de sociologues. Ils sont eux qui sont arrivés à modifier la constitution française de 58 et ils ont pu introduire la 49.3 qui constitue un problème aujourd'hui. Donc, la meilleure des choses qui sera importante pour les Africains, pour nous, Africains, bien sûr, parce qu'on me dit de ne pas dire les Africains, pour nous, Africains, c'est que nos intellectuels s'asseyent pour qu'on nous étudie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel test sera approprié à notre identité? Et à le jour où il y a ce travail, je vous assure, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de conflit en ce qui concerne cette histoire de limitation de mandat, deux mandats ou trois mandats. Parce que quoi qu'on on limite ou pas, il y aura toujours cette possibilité de déverrouiller. Et moi je dis, et j'ai l'habitude de dire, même si les gens ne sont pas d'accord avec moi, moi je ne suis pas un pro limitation de mandat. Laissez les conditions ouvertes, parce que vous limitez aujourd'hui, demain celui qui vient, il a la possibilité au nom de la constitution de sauter le verrou et tu reviens à zéro. Donc un éternel recommencement. Donc pour couper court, oublions cette histoire de limitation de mandat, que les intellectuels s'asseyent pour réfléchir à ce débat.
Mais Fibin, est-ce que le jeu n'est pas simple si nous, l'ensemble alors de la population, du moins, nous avons voté pour une constitution donnée et observé scrupuleusement, alors cette constitution devient maintenant un autre problème?
Non, le danger des constitutions, c'est ça que les gens ne voient pas. Dans toutes les constitutions au moins, il y a ce problème. L'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État, au Premier ministre et à un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale. Oui. Trouvez toutes les constitutions. Ça veut dire, vous, population, vous avez voté. Vous avez dit, on ne touche pas, vous avez dit, c'est deux mandats. Mais il y a une loi dans cette même constitution que vous-même, vous avez voté. Et qui donne prérogative, pouvoir puissant au président pour lui dire qu'il a la possibilité de modifier ça. Il a dit, ce qu'on vote, au fait, on n'étudie pas ça. Ce que nous, population, nous votons, nous n'étudions pas ça scrupuleusement. Parce que ce que nous votons, c'est un danger que nous remettons au président de la République. Je ne parle pas du président du Togo, c'est-à-dire de façon générale. C'est-à-dire toutes les constitutions que les populations votent, ceux-là qui manifestent aujourd'hui. Il a dit, c'est les tests qu'ils votent dans les urnes, ils ne maîtrisent pas les tests. Parce que vous ne pouvez pas dire, vous votez une constitution, vous limitez le mandat et vous donnez encore la possibilité au président de sauter le verrou constitutionnel. Mais ça veut dire qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait.
Non, mais au fait fond, ce n'est pas la population quand même de vérifier cela, puisque la population a déjà donné le mandat à ses représentants à l'Assemblée nationale qui vont vraiment jouer ce rôle.
Oui, et maintenant, c'est ça en fait. Soit vous subissez, et c'est là où j'ai dit, la démocratie, ce n'est pas le meilleur des régimes, mais c'est le moins pire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de meilleur régime. Du moment où vous choisissez un représentant, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, ce dit vous dit que c'est lui là cette manière de voir les choses. Mais pourtant, c'est vous qui l'avez envoyé là. Et vous dites, le test qu'il a fait voter là, ou pour lequel il a levé le petit doigt, vous n'êtes pas d'accord. Mais il va vous dire, non. Parce que c'est lui, il se dit technicien politicien. Il dit, il étudie l'environnement politique. Et il trouve que c'est cela qui vous est approprié. Et c'est pour cela qu'il a dit oui. Alors que peut-être dans les coulisses, il a été travaillé. Peut-être dans les coulisses, il a été manipulé, peut-être dans les coulisses, il a été acheté. Ça veut dire que le fait même de choisir un représentant est un danger. Mais nous sommes soumis, nous sommes contraints et on doit procéder ainsi. C'est comme ça, ça se passe en politique. Nous sommes, et j'ai l'habitude de dire, du moment où vous choisissez la démocratie, attendez-vous à subir la démocratie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de subir la démocratie.
Et vous direz peut-être subir le dictat de la démocratie.
Oui, bien sûr. La démocratie, nous sommes en train de subir sa dictature. Elle s'impose. Le fait que vous choisissiez la représentation, parce qu'il y avait eu plusieurs démocraties, la démocratie directe, vous avez la possibilité de voter en même temps, la démocratie indirecte, la démocratie représentative. Par exemple, le président du Togo, c'est la démocratie représentative. Le peuple a dit, je ne peux pas m'auto-gouverner, gouvernez-nous. Et quand on lui, au nom des circonstances internationales, au nom des enjeux mondiaux, il se dit, c'est telle décision que je prends. Et vous vous manifestez, il dit, non, c'est moi qui suis près de la case. Je vois comment le feu brûle. C'est comme ça. Et puis, il y a des présidents qui imposent ces décisions-là. Vous allez dire quoi? Que ce n'est pas votre décision, c'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Macron. Regardez avec la 49-3. Le peuple dit, on ne veut pas de ce test. Emmanuel Macron ne veut pas. Il envoie l'Assemblée nationale, on a dit, on ne veut pas de ce test. Mais les Français ont adopté une constitution qui est dangereuse. Ils ont accepté la 49-3. C'est-à-dire, même si l'Assemblée n'est pas d'accord, même si le peuple n'est pas d'accord, le président de la République ou le Premier ministre a la possibilité de faire passer ce test-là. Il dit, je fais passer ce test. Ce test-là devient la loi de la République. Vous êtes obligé de vous y soumettre. Sinon, l'État a la force légitime. Il vous incarcère, il vous bastonne, il vous fait tout ce qu'il veut. Parce que c'est vous qui l'avez placé là-bas. Donc moi je dis, il faut que nous intellectuels, on réfléchisse à là où nous voulons aller. Il ne suffit pas de dire, la démocratie. Les gens disent, aux États-Unis on fait la démocratie, en France on fait la démocratie. Mais attendez, c'est la même manière qu'ils utilisent ou dont ils s'inspirent pour faire passer les constitutions. C'est la même manière. Aux États-Unis, on donne la possibilité de modifier la constitution. En Togo aussi, si on modifie la constitution, on va dire que non. Alors que c'est la même chose. La démocratie, elle est la même aux États-Unis. Elle est la même partout. Mais nous, moi je dis à nous, Africains, pour le moment d'adopter la démocratie, réfléchissons à un meilleur régime. Parce que si nous cherchons toujours à copier ce régime, ce sera un danger pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique sera un continent d'avenir, bien sûr, mais pas pour les Africains.
Germain, c'est vrai, vous avez suivi le développement alors de Firmin, mais moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas une question de mauvaise foi quand déjà on s'est dit que nous avons des tests fondamentaux que nous appelons souvent alors la constitution, et déjà avec cette constitution on n'est pas habilité, ou du moins du jour au lendemain on pourra tordre le cou ou toiletter même d'ailleurs cette constitution pour aller peut-être.
Je crois qu'il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise constitution en soi, elle se ressemble plus ou moins avec quelques différences. C'est que malheureusement ceux qui dirigent le pays au moment de la constitution la rédige, c'est généralement le gouvernant qui réunit une constituante, des personnalités qui s'y connaissent en droit et en matière constitutionnelle et qui écrivent un texte. Et ils envoient à l'Assemblée valide avant que ça ne revienne au niveau du référendum. Alors, quand vous prenez, les gens ciblent toujours, même au Togo, la constitution de 92, on prétend qu'elle était consensuelle, largement votée. Mais quand vous prenez l'âge pour être président de la République, ben, les gens ont voté un âge pour empêcher un gars comme Kofi Go d'être candidat. Donc il était ciblé. Donc si lui devenait un président ou s'il avait le moyen, il peut faire réviser cette condition pour lui donner un âge qui lui permet d'être candidat. Vous allez au Tchad aujourd'hui, vous allez voir le maréchal, l'âge qu'il a mis pour être candidat, ben, il le fait par rapport à lui aussi. L'âge, quand on veut éliminer un candidat, on met un âge plafond, après cet âge, on ne peut pas être candidat. On le faisait en Côte d'Ivoire, il y a les Bédis et tout ça qui ne pourraient jamais être candidat. Donc, vous voyez. Donc, après, ceux qui ont la charge de modifier, vous voyez un peu les transitions un peu partout, ils le font en glissant des choses qui peuvent être revues par un autre qui arrivera au pouvoir. Mais il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise. Après, il y a un minimum qu'il faut respecter et avancer. Nos problèmes, ce n'est pas des problèmes de constitution. Ceux-là, ce qui s'est passé au Sénégal aujourd'hui, ça se passe pratiquement aux États-Unis, où on est en train de vouloir disqualifier Donald Trump des prochaines élections.
Tout à fait.
On lui a collé pas mal de procès possibles et impossibles. Donc, c'est le jeu politique. Mais après, c'est utile qu'il y ait des représentants, parce que le peuple matériellement ne peut pas se réunir et décider, ne peut même pas diriger. Il faut déléguer, il faut donner une partie de son pouvoir. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas un mandat impératif. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, vous allez, vous faites ça. Si vous ne faites pas ça,
on
vous dégomme dans l'immédiat. Non. Ici, il y a un mandat qu'on vous donne qui a une durée, à moins qu'il y ait une faute
de haute trahison,
on vous laisse finir. Même si les gens ne sont pas contents, vous finissez. Et quand il parlait de Macron, il fait sa réforme des retraites, la majorité des Français, pratiquement la quasi-totalité, ils ne sont pas d'accord. Mais il le fait parce que d'abord, il sait qu'il n'a plus besoin de leur vote parce qu'il a son dernier mandat. En plus, il sait que économiquement, c'est une loi qu'il doit adopter parce que le pays et le système des retraites là-bas, ça ne tient plus. Donc, c'est utile qu'il y ait des représentants. Seulement, il faut que ceux-là, qui sont aussi sur le terrain, parce que parfois, ce que le peuple dit et ce qui est faisable, c'est le jour et la nuit. Hein. Vous avez, on a tendance à croire que les États sont riches, il y a des moyens. Alors, quand on vous explique comment on gère au niveau de l'État, c'est très compliqué. Donc, après, quand vous êtes au pouvoir, peut-être pendant la campagne électorale, vous avez promis beaucoup de choses, mais une fois au pouvoir et face aux réalités, il y a peu de choses qui sont respectées, ou parfois même, quand vous faites le bilan, vous voyez que vous avez tout simplement triandé les électeurs parce que vous avez fait autre chose. Je sais pourquoi vous êtes allé, mais ce sont les réalités. Et il faut quand même que nos populations ici aillent à l'apprentissage aussi de la démocratie, qu'il y ait beaucoup de tolérance. Et puis, après aussi, il y a les leaders aussi qui roulent beaucoup plus pour leurs intérêts, et qui font croire aux populations que c'est dans leur intérêt, qui les embarquent dans certaines situations, qui créent des affrontements inutiles. Et les hommes deviennent des chiffres. On vous dit tel nombre de blessés, tel nombre de morts. Vous avez des opposants, quand il n'y a pas de blessés, de morts, c'est comme si des manifestations n'ont pas réussi. Quand il y en a, c'est comme si le pouvoir est fragilisé. Et si tout ça, ça devient quelque chose d'assez vicieux. Et il faut quand même que nous, on se réveille. C'est vrai, la démocratie est une bonne chose, la liberté est une très bonne chose, mais aujourd'hui, c'est la pauvreté qui est le principal défi. Et on est libre, on parle, on vote, on fait un certain nombre de choses, mais après, il faut pouvoir se nourrir, il faut pouvoir travailler, atteindre cet état-là, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le défi de tous les dirigeants.
Moi, je voudrais ajouter deux petites choses.
Oui, rapidement.
Germain a dit qu'arrêter le problème de l'Afrique, ce n'est pas un problème de constitution.
Oui.
Parce que moi, je ne pense pas que ça soit un problème de constitution. Et moi, j'ai l'habitude de dire que lorsque les Occidentaux sont arrivés ici en Afrique, ou tous les thèmes que vous voulez, nous coloniser ou quoi, vous savez, ils ont eu à étudier le continent, l'individu africain, qui ils sont en réalité sur le plan que je viens de citer, sur le plan anthropologie, anthropologiquement, on représente quoi, sociologiquement, psychologiquement. Donc, c'est avec cette étude-là qu'ils ont pu dire, ils ont pu adopter une conclusion pour dire, ah, ceux-là, on peut les dompter. Ceux-là, on peut travailler avec eux. Ceux-là, on peut les maîtriser. Et c'est à base de ça qu'ils ont fait des tests, les accords qu'ils ont eu à conclure avec nous. Et c'est pour cela que, en réalité, quand vous voyez le Soudan, par exemple, personne, ce sont les Africains qui s'insurgent contre les Africains et qui s'entretuent. Or, derrière, il y a des gens que nous ne voyons pas. Parce que les Occidentaux se sont dit, mais les Africains, ils sont comme ça. Donc, vous les manipulez comme ça. Ils vont tuer leur propre frère. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso, on n'a jamais vu un Occidental tirer sur Thomas Sankara. Mais ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont levés. Quand vous voyez ce Sylvanus Olympio, quand vous voyez Patrice Lumumba en RD ou au Congo belge.
Même au Ghana.
Même au Ghana. Mais
Nkrumah.
Ce ne sont pas les Occidentaux qui sont venus nous tuer. Mais sont les, ils savent que s'ils nous manipulent comme ça, non, ils vont avoir de tels résultats. Donc, c'est dire qu'en réalité, eux, ils nous connaissent mieux que nous. Et c'est pour cela que nous insurgeons, dit non, on va faire quoi avec la France, tout ça là. Moi, excusez-moi, c'est un débat qui me fait trop sourire. Je m'en moque. Parce que les gens là nous maîtrisent mieux que nous. Ils savent pas où ils vont passer pour nous avoir encore. Donc, le travail que nous devons faire, c'est un travail beaucoup plus sociologique. Nous devons nous étudier. C'est-à-dire, pourquoi l'Africain n'arrive pas à travailler avec son frère? Pourquoi les petites associations de base n'arrivent pas à marcher? Pourquoi les communautés à l'église, ça ne marche pas? Pourquoi les groupuscules qu'on forme dans les quartiers, ça ne marche pas? Ça veut dire que nous avons un problème. C'est le jour où nous aurons réglé ce problème, je pense que ce sera le début de notre décollage. Maintenant, la deuxième chose, elle est trop petite, Mais quand Germain disait que ce qu'on promet le jour, la nuit, on n'allait pas le faire, je vais donner ce petit exemple de François Mitterrand. Lorsque François Mitterrand prenait le pouvoir en 1981, il avait dit, à l'époque, le mandat en France était 7 ans. Il avait dit, non, moi, 7 ans, c'est trop pour moi, François Mitterrand. Moi, j'arrive là, c'est fini. Je fais un mandat et je pars. Il est arrivé à 2 ans de la fin de ce premier mandat-là. On lui demande, mais est-ce que vous allez encore aller? Il dit, vous savez, le pouvoir, la politique, lorsque vous rentrez dedans, il y a des choses que vous rencontrez, vous croisez. Non, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc, je ferai encore un mandat de plus.
Nous allons quitter rapidement alors ce sujet, Firmin. Nous allons clôturer le débat alors de ce matin avec un sujet qui nous intéresse tous. Il y a Togo Matin, le journal Togo Matin qui en a parlé ce matin. Et c'est le sujet alors de la presse écrite au Togo. Et je veux bien parler alors de ce travail-là que nous faisons tous ensemble. Alors, presse écrite au Togo, c'est ce que titre alors le journal ce matin. Chronique d'une mort lente. Et au chapeau alors de je vous livre un tout petit peu le chapeau de cette chronique alors que Togo Matin a fait. La presse meurt et sous le regard indifférent de tous, une mort certaine et collective nous attend. L'information est passée presque inaperçue parce qu'en réalité le sort de la presse n'intéresse plus presque personne. Le quotidien Liberté a annoncé il y a quelques jours dans un communiqué la réduction de ses parutions par papier à 2 au lieu de 5 comme par le passé. La raison est tout simple. Alors, Germain, est-ce que cette mort de la presse écrite dont on parle alors Togo Matin, est-ce que ce n'est pas inquiétant?
Ah oui, mais c'est très inquiétant. Bon, on parle de liberté, mais tout le monde est concerné. Hein? Togo Réveil, c'est la même galère. Et c'est très difficile. Vous savez, la presse écrite victime de plusieurs situations.
Oui.
La première, c'est le coût pour imprimer le journal avec la Covid, avec la guerre en Ukraine. Tous les intrants flambaient de prix. Les imprimeurs aussi ont augmenté. C'est déjà lourd. Et ça arrive à un moment où la presse écrite est très concurrencée par les réseaux sociaux et par le digital. Mmh. Vous savez que là, il y a une information qui tombe. Mon journal sort demain. Sur la main, j'écris. Après, je vais à l'imprimerie la nuit. Demain, ça sort. Mais de 7h là, midi, jusqu'à demain, l'info, ce n'est plus ça. Tous les réseaux sociaux en ont parlé. Avant que moi, je n'édite mon journal cette nuit et qu'il sorte demain. Donc, il y a une concurrence qui... De ce point de vue,
ça
aussi,
du
a tué la presse et elle ne vendait plus avec l'apparition. Ce qui a fait que plusieurs médias, presse écrite comme les nôtres, ont dû avoir des sites internet pour être capable de publier au même moment, instantanément, quand les faits se produisent. Donc, après, internet, c'est difficile de vendre aussi. Internet, vous publiez. Mais la rentabilité, c'est autre chose. Et puis, la presse vit des publicités. Et quand vous prenez nos journaux, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, on vous fait pratiquement de l'aumône en vous donnant de la publicité. Vous êtes bien obligé aussi de l'accepter parce que si vous refusez, vous allez mourir de faim. Donc l'apparition de ce nouveau média-là nous sont énormément fatigués. Et puis plus globalement même, en ce qui concerne la presse, pas la presse écrite seule, les réseaux sociaux ont fabriqué de nouveaux types de journalistes qui ne sont pas forcément formés, mais qui diffusent l'information, qui ne la traitent pas, mais qui la diffusent. Alors, nous sommes un métier menacé déjà.
On parle des journalistes citoyens.
Et la presse écrite est beaucoup plus menacée parce que nous quittons peu à peu le papier, on va vers le numérique, la digitalisation. Vous avez vu que ça, on avait commencé avec la GED, la gestion électronique des documents. On pensait que c'était de la blague. Aujourd'hui, nos PDF se distribuent plus que le papier. Donc, c'est une réalité, alors que nous payons pour imprimer. Et c'est une situation très difficile. Et moi, à mon niveau, là, je fais 16 pages par semaine, mais là, vous avez mon journal.
Et Togo Réveil ce matin.
Depuis 3 semaines, je le fais en 8 pages imprimées, mais en numérique, je garde les 16 pages parce que les frais d'impression sont énormes. je n'arrive plus à imprimer les 16 pages. Mais quand vous avez la version numérique, vous avez les 16 pages. Mais la version papier, je suis obligé de réduire, c'est très lourd. Donc c'est une mort qui nous frappe tous et ça va aller en s'aggravant parce que de plus en plus le numérique qui est en vogue. Et le monde évolue assez vite avec le digital. C'est vrai que la presse va toujours exister. Elle va beaucoup souffrir, mais ce n'est pas propre au Togo. Hein. Je pense que les Occidentaux sont passés par là.
Tout à fait.
Ils sont en train de se battre pour que des grands groupes comme Google, comme Facebook et tout ça puissent leur verser de l'argent avec des batailles qui sont déjà remportées dans certains pays comme le Canada où ces groupes ont quand même accepté verser quelques sous à ces médias-là. Donc, c'est très compliqué.
Et c'est très compliqué. Firmin, rapidement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire pour sauver la situation?
Il y a un président américain qui s'est posé cette question. Est-ce qu'il faut choisir un gouvernement sans la presse ou une presse sans gouvernement? Et le chef de l'État, le président américain a répondu, s'il faut choisir une presse sans gouvernement, il le choisirait. Il m'arrive des fois de me poser des questions. Est-ce que les premières autorités de ce pays ne veulent plus de la presse au Togo? Je ne dis pas qu'ils sont responsables de ce qui est en train de nous arriver. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est la question que je me pose. Mais je peux trouver une petite réponse lorsque le président de la République a accordé une interview à New World, que nous avons tout apprécié. Ça veut dire aujourd'hui New World fait notre bonheur, notre image à l'international. Notre fierté, bien évidemment. Alors sur ce point, moi je me dis, il faut que le président de la République soutienne la presse pour qu'on ait 2-3 New World ici au Togo, au niveau de la presse écrite, au niveau de la radio, au niveau des télés.
C'est possible.
Et c'est possible. Donc il faut que l'État investisse massivement, que l'État injecte massivement de l'argent dans la presse. Quand vous êtes là, ceux-là qui sont des quotidiens deviennent 2 jours par semaine, par exemple, forum de la semaine de notre grand frère Dimanche Dikodo,
ça qui n'existe pratiquement plus.
Ça n'existe pratiquement plus, mais c'est grave. Il y a Independent Express qui est tombé dans des problèmes, peut-être qui a disparu. Il y a l'alternative qu'on voyait, mais dont on n'en entend plus parler. Il y a d'autres presses qui ne sont pratiquement plus. Par exemple, moi, je vais souvent à la rédaction de Germain, je vois toute l'équipe qu'il dirige, mais il va trouver l'argent où? Si on ne l'aide pas, ils sont plusieurs dans ce. Je ne sais pas, je vais vous inviter à aller dans la rédaction de Germain, où son équipe bosse, et vous voyez aussi la qualité du travail. Si on ne le soutient pas, il va faire comment? Alors que, maintenant, il a créé de l'emploi, et il soutient l'État. C'est de la même manière, ceux qui sont de la presse, les radios ici par exemple, parce que vous êtes payé ici, vous rendez un service à l'État, vous faites un travail de collaborateur public, vous aidez l'État. Au niveau de l'emploi, Canal FM aide l'État. Alors si vous avez des difficultés et que l'État ne vous soutient pas, ça veut dire que nous aurons des employés en moins et le taux de chômage, ça va aller en crescendo. Ce n'est pas une bonne chose. Alors pour conclure, moi je voudrais demander au président de la République de réunir si possible toutes les organisations de presse et qu'ensemble on puisse trouver la solution. Comment on peut aider la presse? Comment on peut avoir 2, 3, 4 quotidiens dans un pays? Un pays sans quotidien, c'est grave. Ça veut dire qu'on n'existe pas. Un pays sans quotidien, c'est grave. Monsieur le Président de la République, j'espère que vous nous écoutez humblement. Chercher à nous rencontrer.
Merci beaucoup pour le message. Je pense que le message est passé. Et donc, nous allons nous soumettre à l'injonction à l'heure du temps, puisque nous allons donner la parole à nos auditeurs tout de suite pour qu'ils réagissent aussi sur des sujets dont on a discuté alors ici au Club de la Presse de ce vendredi. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil alors à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi. Vous nous avez écouté maintenant. Nous allons vous écouter aussi. Vous allez réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse. 22 21 33 75, c'est les deux numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. 22 21 33 74, un auditeur en ligne. Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Pascal.
Oui, je salue les deux invités. C'est Monsieur Pascal.
Oui, c'est Pascal Lossou.
D'accord.
Le nom, s'il vous plaît.
C'est Sylvain.
Ah, non, Sylvain.
Oui.
Allez-y.
Si je comprends bien, monsieur Firmin, donc je suis au Togo, je suis togolais, je vais parler du Togo. Si je le comprends bien, ou bien s'il peut nous expliquer en fond, ça veut dire qu'en 2025, après 2025, il peut y avoir encore une modification de notre constitution. Et puis de deux, franchement, c'est nos dirigeants qui ne font pas confiance à nos constitutionnalistes. Ils font recours aux Européens qui ne connaissent même pas. Regardez ce que paix à son âme, Idriss Déby disait. Le constitutionnaliste que la France lui a envoyé, il ne l'a jamais rencontré, il ne le connaît pas. Alors que c'est ce constitutionnaliste qui a modifié la constitution, qui lui a permis de rester au pouvoir. Il ne faut pas confiance à nos constitutionnalistes. Il y a des gens qui ont les têtes bien faites. Et puis ils sont là. Ils sont là. C'est nos dirigeants. C'est la faute de nos dirigeants. Bon, merci.
Merci beaucoup, Sylvain. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous contacter et réagir sur les sujets débattus au Club de la Presse. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Je veux bien, merci, chez vous.
Le nom, s'il vous plaît?
Gérard.
Gérard, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de Niekonak.
Niekonak, oui, allez-y, Gérard.
Merci. Généralement, ça pouvait être fluide pour qu'on puisse téléphoner comme ça très souvent. Bien. Je voudrais aborder deux sujets. Concernant l'affaire de constitution et de démocratie, j'ai écouté en long et en large M. Firmin, Deco, mais aujourd'hui, est-ce que le Togo souffre d'une démocratie ou bien l'Afrique souffre de la démocratie? Parce qu'il ne s'agit pas pour que les intellectuels nous disent que non, et il faut faire une démocratie à l'africaine. Une démocratie à l'africaine n'existe pas, parce que nous avons appris tout simplement une démocratie dans l'école des Blancs, que nous connaissons. Si on veut parler de démocratie à l'africaine, elle existait depuis. Parce que pour élire un chef dans un village, on s'alignait derrière l'autre, et puis on voit tout de suite que ça dépasse de l'autre côté, et on choisit, et les gens acceptaient. Aujourd'hui, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Si nous nous sommes donné, nous avons un contrat entre nous, que c'est deux mandats, et c'est rien, c'est tout. L'essentiel, c'est que celui-là n'a qu'à préparer sa retraite. Psychologiquement, quand il met pied, qu'au premier mandat, on peut me changer, quand je peux avoir la chance de faire le deuxième mandat, et après, je m'en vais. Et quand on se prépare psychologiquement, ben, on part après tranquillement. On le voit dans d'autres pays où les gens sont à l'aise. Mais dans certains pays africains, on a l'impression que c'est difficile. La démocratie, c'est quoi? On dit gouvernement du peuple par le peuple. Ça, c'est ce que nous apprenons à l'école. Mais la démocratie, c'est plutôt le respect des textes. C'est-à-dire, nous nous sommes engagés à faire quelque chose, à respecter telle chose. Ne brûlons pas le feu rouge. On ne brûle pas. C'est mon passage. Je dois passer. Vous devez respecter. Et puis, c'est tout. Si tout ce qui s'est passé tout dernièrement avec la loi 49-3 en France...
En France?
La démocratie, c'était où? La démocratie est que les textes concernant les manifestations étaient respectés. Même s'il y avait beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y avait eu des cas, il y avait beaucoup de choses, mais on ne tirait pas. Même s'il y a eu des coups de feu, ce n'est pas comme ça se passe en Afrique. Voyons bien les choses et ouvrons bien les oreilles pour nous entendre et puissions analyser les choses. Moi, j'aurais souhaité être sur le plateau avec vous et faire vraiment ce débat-là. Et ça m'intéresserait beaucoup. Mais parce que, moi, c'est la mentalité à l'africaine qu'il faut changer. Monsieur Firmin, si vous êtes là, vous faites deux jours. Vous devez faire deux jours quelque part ou deux heures. Mais levez-vous et puis vous partez. La seule chose aujourd'hui, moi, je pense que c'est une question de mentalité. Quand on fait les élections, c'est le seul problème. Quand on gagne quelqu'un, la personne ne veut pas partir. Même s'il y a une limitation de mandat, que ce soit en Europe ou en Afrique, l'Européen... Ou ailleurs, la seule chose, oui, aujourd'hui on le voit, les gens n'acceptent pas les résultats. Mais Donald Trump est parti, il n'est pas parti. Il est parti, mais il dit qu'il n'accepte pas les résultats. Mais ailleurs, nous comptons sur nos hommes, nos forces, et on dit, on a l'armée, ou bien on a le soutien de tel qui va venir, et puis on fait avec les nôtres. Moi, je pense que c'est seulement la seule chose qu'il faut voir. Bon, maintenant, concernant la presse,
et rapidement, ça m'intéresse
beaucoup. C'est parce que la presse togolaise, vous n'innovez pas. Soyons sincères. On veut parler de Akouvi dans un coin qui est sorti avec Kofi. On veut sortir de tel policier qui est sorti la nuit pour aller prendre des choses. Et les gens sont fatigués. En Europe, la Libération et les autres continuent de marcher depuis des années. Aujourd'hui, vous pouvez innover. Ne parlez pas seulement du Togo dans vos presses. En page internationale, innovez. Parlez de ce qui s'est passé à Lyon-Moi, au siège. Parlez de ce qui s'est passé à la CDAO. Parlez un peu de l'Europe, ce qui est passé entre l'Europe et telle chose. Même si c'est des petits paragraphes que vous mettez, les gens peuvent fouiller, voir des choses. Aujourd'hui, de parler de ce que nous avons déjà vu sur les réseaux sociaux chez nous, c'est-à-dire que la lagune est quelque part, vous ne devez plus reprendre ça la nuit. Certains ne doivent même plus traiter ce sujet. Il y a eu de l'eau à Shell Tokmato, d'autres vont le traiter. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, essayez de bannir ce sujet, trouvez d'autres sujets, mettez quelque chose de plus poignant. On n'a pas besoin d'aller au secours.
Gérard, merci beaucoup. Il y a d'autres également qui sont en ligne. Gérard,
je suis d'accord.
Oui.
Mais on n'a pas besoin que le chef de l'État vous rencontre pour des problèmes.
Merci beaucoup, Gérard.
Vous allez voir, oui.
Vous avez été vraiment long.
Merci beaucoup,
à vous aussi.
Bon,
voilà, merci beaucoup. 22 21 33 74 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô. Oui, bonjour. Le nom? Votre nom, s'il vous plaît. Allô. Il est toujours en ligne. 22 21 33 74. Allô. Non, j'ai du mal à vous écouter. 22 21 33 114. Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais bien.
Le nom, s'il vous plaît.
Natema. Oui.
Allez-y.
Et ce que Firmin vient de dire, c'est beau, c'est magnifique. Mais vous savez, tel que celui qui vient de parler là,
Gérard.
C'est bon, c'est la mentalité. Même si je viens et je sais que mon concitoyen doit mourir à cause de moi, une seule personne là. Mais être président de la République une fois, un mandat, 5 ans, deux fois, ça fait 10 ans. Mais c'est quoi? Mandela n'a-t-il pas été président? Quand il a laissé, il n'est pas président. Ceux qui laissent là, ils ne sont pas des présidents. Mais quand même, soyons à la hauteur. Vous savez, monsieur le journaliste,
oui,
les présidents qui viennent tel que Firmin l'a développé là, ils savent ça. Ils savent que, bon, la condition là, elle est biaisée. Donc, quand ils viennent, ils sont là. Quand ils voient que ça va aller à la fin maintenant, là, ils disent que non, qu'il y a problème, Donc, on essaie d'arranger ça. Il arrange ça. Ça, c'est pour son intérêt. Maintenant, et pour ceux qui sont tout autour de lui. Et c'est ce qui se passe au Togo. C'est ce qui se passe en Afrique. Mais au moins, soyons à la hauteur. À cause d'une personne qui va mourir. Une personne qui réclame l'alternance. Mais quand même, osons. Ça dit quoi? Si aujourd'hui, le président de la République du Togo, il cesse comme ça, comme Macky Sall vient de le faire, c'est une bonne chose. Il n'est pas le seul. Peut-être que quelqu'un va venir, même il va faire aussi plus que lui. Et c'est ce que nous voulons au Ghana. C'est ça. Mais au Nigeria, on fait des élections, on passe. C'est bon. Mais pourquoi laisser que les gens meurent?
Merci beaucoup, Natima. Et bonne suite à toi. 22 21 33 114. Allô? Allô, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, bonjour. Le nom, s'il vous plaît.
C'est Monsieur Ablam depuis Kagome.
Monsieur Ablam depuis Kagome. Allez-y.
J'aimerais rebondir sur la question de la constitutionnalité. L'explication de Monsieur Timéa a fait. J'aimerais seulement ajouter que nous, les Africains, ne sommes pas obligés de continuer ce que les gens font de mauvais choses. Il a donné un exemple d'un article 43 en France qui est passé par la force. Ça ne veut pas dire que quand les gens font des choses qui ne sont pas potables chez eux, nous sommes obligés de copier tout ça. C'est ça, bien. Nous ne sommes pas bêtes. Donc, on copie ce que les gens font de bien chez eux et on laisse ce qu'ils font de mal. La démocratie, ça arrange tout le monde. Mais la dictature, ça n'arrange pas tout le monde. Ça, je pense qu'on est d'accord.
Merci beaucoup, Ablan. 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous recevons le dernier auditeur alors pour le compte de cette émission. Allô. 22 21 33 114. Allô.
Oui.
Bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Pélé.
Pélé, voilà. Allez-y.
Okay. Bon, je pense que ce que Sylmet développe, je peux être d'accord en partie. Mais lorsqu'on parle des textes fondamentaux, on fait référence à nos intellectuels, à nos élites, à nos historiens. Actuellement, au Togo, ils sont où? Si nous ne voulons pas aller loin, parce que au lendemain de, ou bien dans les années 90, lorsque Chirac disait que l'Afrique n'est pas mûre pour faire la démocratie, nous sommes partis en Europe pour aller, parce qu'on a appris tout ce que les Européens font et on veut répéter ici. Alors qu'il faut faire référence à nos cultures aussi. Ça, c'est très important aussi. Maintenant, il faut voir que nous sommes en retard. Si nous référons à ce que Patrice Talon a fait, que nul ne doit pas faire plus de 2 mandats dans sa vie. Est-ce que ça, c'est ça?
Allô, Pélé? Nous l'avons perdu, mais il est le dernier auditeur alors dans cette émission. Alors, nous revenons sur le plateau. Firmé, vous avez tout à fait compris que le sujet politique intéresse beaucoup les Togolais. Et nous avons parlé de l'érosion côtière, nous avons parlé de la presse, mais il n'y a eu qu'une seule personne, Gérard Seul, qui est revenu sur la question de la presse. Et pour ce qui concerne la politique, tout le monde pratiquement est revenu sur la politique. Et il y a des questions qui vous ont été posées. Quelle est d'abord votre réaction par rapport à tout ce que vous avez écouté?
Ma réaction, elle est simple, à deux volets. Le premier volet, c'est par rapport à Gérard et à Pélé, qui ont traité un peu le problème. C'est-à-dire, M. Gérard, il a parlé de la mentalité, il dit que c'est une question de mentalité. Et l'autre, à l'autre d'ajouter, c'est une question de culture.
Oui.
Ça veut dire, il est sur la voie. Le problème de nous, Africains, nous ne l'avons pas encore identifié. Donc, le problème est d'abord psychologique. Le jour où nous arriverons à détecter ce problème, nous réglerons ce problème-là et le problème de constitution ne se posera même plus. Parce que le problème est d'abord psychologique, sociologique. Allons d'abord sur ce terrain-là. Vous ne voyez pas que beaucoup ont parlé de la constitution, de la constitution. Il y a un problème que nous avons. Nous devons détecter ça d'abord. Si on n'arrive pas à le faire, on va toujours tourner en rond, il y aura toujours des conflits, il y aura des blessés, il y aura des morts, on n'arrivera pas à régler le problème. Le problème est toujours psychologique, comme Gérard l'a dit, et je concède. Maintenant, je voudrais dire, pour conclure, que, en réalité, nous devons le savoir, je ne veux blesser personne. Toute constitution est une manipulation politique. Toute constitution est une manipulation politique. Celui-là qui fait la constitution, il manipule, il le fait, il la taille à sa manière, selon ses principes.
Il a un intérêt derrière.
Il a un intérêt derrière. Dans tout le monde entier, le général de Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est lui qui a fait la constitution du 4 octobre 1958. Et c'est lui, il a fait ça pour lui, pour être l'homme le plus fort. Il ne voulait pas être contesté. Et vous savez ce qu'il faisait? Lorsqu'il était nommé premier ministre, tu viens avec ta lettre de démission en même temps, antidatée. Lorsque le général de Gaulle, France, 5e puissance du monde, une des grandes démocraties au monde, lorsque le général de Gaulle te nomme le premier ministre, tu viens avec ta lettre de démission. Donc tu viens, et le jour où il ne veut plus de toi, il sort la lettre, mais il date maintenant la lettre. Il pose la lettre, il dit, bon, tu viens de démissionner, alors que toi-même, tu n'es même pas au courant. En France, pas en France. Donc, nous devons savoir que tous ceux-là, qui sont chefs d'État, et qui font élaborer des constitutions, ont toujours leur intérêt caché dans la constitution. Donc, le problème est toujours mal parti. Alors, pour le régler, moi, je propose qu'on aille sur un terrain sociologique, qu'on aille sur un terrain psychologique, qu'on aille sur un terrain anthropologique.
Merci beaucoup, Firmé.
Oui, mais, alors, mais quand tu parlais tout à l'heure, il y a eu plusieurs sujets qui ont été débattus. On n'a parlé que de la politique, de la constitution, et même un peu de la presse, très légèrement. Et sur une grande question comme l'érosion côtière, il n'y a même pas eu un mot. Notre invité est là, je croyais. Que les gens... Donc, c'est pour vous dire, nous sommes un peu trop accrochés à la politique en Afrique. Et on parlait de développement, je disais tantôt on s'est voté tout ça, on a la liberté, mais il faut qu'on se développe. Et les Chinois, on ne parle pas beaucoup de démocratie chinoise, mais il y a 3 ans, quand les Chinois ont délimité le mandat présidentiel, les gens étaient surpris de savoir qu'il y avait la limitation en Chine. On présente la Chine comme une dictature. Les Chinois ont copié la démocratie occidentale, mais ils ont ajouté leur culture. Et les Chinois ont mis le travail en avant, la discipline en avant, la vision et tout ça. Aujourd'hui, ils sont la première puissance économique au monde. Mais les Chinois étaient colonisés. Certains Africains ont eu l'indépendance avant la Chine. Aujourd'hui, la Chine est au-dessus de ceux qui les ont colonisés et où est en train d'être dedans. Nous devons travailler. Maintenant, on est trop accroché à la politique. On croit que c'est la démocratie qui va nous développer. On pense que c'est la constitution. Et quand on parle de constitution, on ne cherche même pas à voir les autres articles de la constitution. C'est le mandat présidentiel seul qui intéresse. Mais la constitution organise tout l'État. Toutes les activités de l'État sont dans cette charpente. Mais on ne s'intéresse qu'à la présidente de la République. Et je crois que tant qu'on va continuer à réfléchir comme ça, on ne va jamais se développer. Quand on va continuer pas à croire que c'est avec l'élection, la politique qu'on va se développer, on a des champs, personne ne veut cultiver. Les gens vont au bureau, ils font WhatsApp, Internet, ils ne travaillent pas. Vous allez chez vous dans l'entreprise. Mais tant que vous ne travaillez pas, ce n'est pas les élections, ce n'est pas les révisions des constitutions qui vont nous développer. Aujourd'hui, on a faim. Il faut penser à travailler parce que c'est le travail qui crée la richesse, ça c'est très clair. Et c'est pas les élections, c'est pas la liberté de parler, c'est pas de manifester, tout ça. Donc je pense qu'il faut que on copie un peu plus les Chinois, parce qu'on copie beaucoup plus les Occidentaux. Aujourd'hui, il faut copier l'efficacité. Et qui nous vient pratiquement de la Chine.
Voilà, il faut copier l'efficacité. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Notre invité, c'est Monsieur Tondo Edo. Si vous avez un mot de la fin, rapidement.
Ok, merci Pascal. Donc, on dit merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés. Donc, je pense que le problème de l'érosion côtière est un problème très crucial. Il faut que tout le monde en pense parce que c'est qu'en 6600 km², ça ne reste pas beaucoup de choses. Donc, ça a diminué. Donc, il faut que tout le monde en pense pour qu'on trouve une solution à ce problème d'érosion côtière.
Merci beaucoup. Merci. Germain, carton de fin d'émission, rapidement.
Le carton, c'est à la presse, parce qu'on a parlé de nos difficultés. Et je fais un clin d'œil donc aux annonceurs, qu'ils comprennent que l'une des sources importantes de revenus de la presse, la publicité sans les annonces, qu'ils songent à passer par nos différents médias pour se faire mieux connaître.
Voilà, mon carton est vert et c'est à l'endroit du peuple kabyen qui vient de passer de très beaux moments des Vala. Voilà. Donc, je leur souhaite beaucoup de joie, que la fête continue.
Je pense que c'est l'édition 569 ou bien voilà 569 justement édition. Alors voilà, merci à vous tous, merci à vous qui êtes passés alors sur ce plateau pour le débat. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous invite alors demain samedi à un concert de slam et de jazz avec Papyrus, et c'est un concert live aussi de musique. Il y aura sur scène groupe Akadi, également alors beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes également qui seront sur scène, et c'est au Goethe Institut. L'entrée est gratuite. Je vous invite alors pour cette balade musicale, ce serait très intéressant. Alors je vous dis merci à vous tous qui nous avez suivis, merci à tout le monde à TV qui a assuré la mise en onde, merci à Géraud Akoutsa qui a assuré la mise en ligne. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.
L'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Hommage au FDS, signé Caporal Chef. se battent pour nous, pour la patrie, pour nos enfants, pour nos parents. Ils s'en vont en guerre pour nos acquis, mais ils ne savent pas s'ils reviendront. Quel que soit le danger, ils combattent jusqu'au bout des frontières. Force de défense, de sécurité, pour le Togo et pour l'Afrique. Force de défense, de sécurité, pour la paix dans le monde. Force de défense, de sécurité, pour le Togo et pour l'Afrique. Force de défense, de sécurité, pour la paix. Pour le tour.